Quand vient le temps de chasser les orages, je perds le sens de ton plus grand voyage.
Cœur de pirate et sa chanson Château de sable.
Mais le prochain sujet n'est pas un château de sable, je peux vous le dire, parce qu'un jalon majeur dans la revitalisation du village de Montréal, quartier emblématique de la diversité sexuelle et de genre, dont l'importance dépasse les frontières de Montréal, donc ça vient d'être annoncé, c'est que Espace LGBTQ+ vient d'obtenir un financement de 12 millions de dollars pour la mise sur pied d'un complexe communautaire dans le village à Montréal, qui deviendra peut-être le plus grand complexe communautaire LGBTQ+ francophone au Canada. Pour en parler, je reçois Quentin Bella, qui est chargé de communication pour l'organisme Espace LGBTQ+. Bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
Alors, Quentin, pour situer le public, là, peux-tu d'abord nous expliquer ce qu'est exactement Espace LGBTQ+ et quelle est sa mission?
Oui, tout à fait. Espace LGBTQ+, c'est une OBNL qui est fondée depuis 2019. Ça a été fondé par 13 organismes de la communauté. Et il y a eu un constat de fait, c'est qu'il y a de plus en plus d'organismes qui sont évités, enfin, qui sont renvoyés de leurs locaux parce que les locaux sont plus d'usage ou les loyers sont trop chers. Ouais. Fait que le constat était vraiment fait de, il faudrait quelqu'un prenne ce lead-là et puisse nous aider à trouver des locaux abordables. Donc, c'est toute notre mission, c'est de développer des complexes, de pouvoir trouver des locaux abordables, en tout cas pour la communauté.
Parce que c'est un problème qui dépasse les frontières de la communauté LGBTQ+. La crise du logement a un effet domino sur les locaux locatifs pour les organismes. Alors, c'est quoi les principaux besoins des organismes de la diversité sexuelle et de genre qu'on veut répondre à l'espace LGBTQ+? Là
actuellement, c'est de pouvoir répondre à ce manque de locaux abordables. Mm-hmm. Clairement, c'est vraiment la crise majeure. De pouvoir aussi leur offrir... Là, aujourd'hui, leur mission, elle est un petit peu divisée dans le sens où ils seront obligés de chercher... on va peut-être se faire virer dans un an. Donc, on met l'énergie un peu dessus pour retrouver des locaux. L'idée, c'est vraiment de leur apporter un soutien qui est vraiment pur technique, d'avoir un espace où ils vont pouvoir faire leur mission et se concentrer uniquement sur leur mission. De pouvoir même mettre leurs ressources, celles qu'ils ont, à travers de leur mission et puis les répartir dans une charge de loyer qui augmenterait chaque année. C'est vraiment l'objectif premier pour le coup. Et le deuxième, c'est de pouvoir mutualiser nos savoirs. C'est qu'aujourd'hui, chacun est un petit peu dans son espace, se parle pas toujours. L'idée, c'est de pouvoir vraiment réunir tout le monde, pouvoir communiquer tous ensemble, de pouvoir échanger ce qu'on sait, nos bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment tout le but de notre projet.
Oui, et d'ailleurs, c'est un sujet important parce que beaucoup d'organismes, parfois, pourraient apprendre des autres et améliorer leurs pratiques à eux. C'est important, tout ça. Alors, peux-tu décrire le projet d'édifice physique là, qui s'appelle Espace plus Village, qui va être situé sur la rue Sainte-Catherine-Est?
Oui, c'est exact. Ça va se trouver pas loin de l'Olympia ou juste à côté de la Graine Brûlée pour ceux qui sont
le café, oui.
au fait ouais. avec le village. Ce premier complexe communautaire LGBTQIA2S+, francophone en Amérique du Nord. Le francophone a une importance parce qu'il existe d'autres complexes comme ça au Canada, que ce soit à Vancouver, à Toronto ou à Winnipeg, mais il n'en existe pas tel au Québec. Ça va réunir une dizaine d'organismes. Il pourrait y en avoir plus. Là, ça serait 10 organismes locataires. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir des salles qui pourront être louées par d'autres organismes, que ce soit pour de l'événementiel, que ce soit pour des réunions, les AGA en l'occurrence.
Du coworking.
Du coworking, hein? Exactement. Ça va se faire sur 3 niveaux. Il va y avoir un premier niveau d'accueil avec un espace librairie. Le Galion viendrait nous rejoindre sur la rue Sainte-Catherine. Il y aurait également Inclusion Sport qui aurait des salles de sport sur le rez-de-chaussée, enfin salles de sport, salles de combat, donc c'est des salles de tatami en l'occurrence. Sur les niveaux supérieurs, c'est soit des salles de coworking ou soit des bureaux pour les locataires. Et le dernier étage, ce dernier niveau, c'est un niveau vraiment, pour le coup, purement communautaire, ce qui va y avoir une cuisine collective. Il va y avoir une grande salle multimédia qui va permettre de faire de l'événementiel, du multifonctionnel, en l'occurrence, et un toit-terrasse.
Ah oui, ça va vraiment améliorer l'édifice, parce que parlons-en justement de l'édifice choisi. C'est l'ancien bâtiment, moi je suis pas de Montréal, je connaissais pas ça, mais ça s'appelait Desjardins Fourrure. C'est un édifice qu'on dit patrimonial. Alors comment le concilier la préservation de cette de l'histoire de cet édifice-là et en faire un édifice complètement moderne, parce que ce que vous proposez, c'est quand même nouveau, là, et de rester aussi éco-énergétique. Alors, parle-nous du défi.
Oui, la première chose, on le démolit pas. Donc ça le rend durable pour le coup. On souhaite vraiment le réhabiliter. Premier, tout simplement parce que c'est déjà un bâtiment centenaire. Il date de 1900.
Il est abandonné depuis un bon bout de temps.
Il est abandonné depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Mm-hmm. En effet, avant c'était un bédo et un yellow qui se trouvaient à cette place-là. Il y a encore une quinzaine d'années. Et en effet, il n'est plus occupé depuis. Donc, c'est un bâtiment qui a beaucoup souffert. Donc, le patrimoine intérieur a souffert. Il y a une réalité. Il doit être réaménagé intégralement sur l'intérieur. Maintenant, sur son extérieur, sur son esthétique, on tient à reprendre vraiment les codes. D'ailleurs, le cabinet d'architecture avec qui on travaille, Ressaille-la-Boissière, a travaillé à rendre ce bâtiment comme il était en 1900. C'est-à-dire que sa façade en briques va retrouver ses ouvertures, ses briques et ses trois niveaux. Parce qu'anciennement, il y avait trois niveaux. Aujourd'hui, de l'extérieur, on ne voit plus que deux niveaux, parce qu'il y en a un qui a brûlé il y a plusieurs années.
Ah oui, donc on va reconstruire ça.
Tout à fait.
Là, je suis curieux aussi. J'imagine qu'on va les mettre aux normes d'aujourd'hui. Oui. Donc, ça sera un édifice aussi accessible pour les personnes en situation de handicap.
Exactement. Oui, tout à fait. Toutes les normes vont être respectées, celles d'aujourd'hui. C'était tout le besoin d'aller chercher ce soutien, là, d'ailleurs, avec le programme du BCVI, qui est un programme du fédéral.
Programme de soutien vert, je pense, oui.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est bureau communautaire vert et inclusif.
OK.
Donc, dans le I, inclusif, en l'occurrence, ça sera ouvert à tous.
Maintenant, comment ça va... On parle de la construction, mais là, quand ça va être construit, comment ça va fonctionner au quotidien pour la dizaine d'organismes qui vont s'y installer?
Alors, l'idée, c'est qu'on puisse... c'est des locaux abordables, vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas communiquer sur un coût de ce que ça va être parce qu'il y a encore le chantier et autres. Mais l'idée, c'est que ça soit abordable. Donc, que le prix au mètre carré soit plus bas que d'autres bâtiments qui se soient dans le village ou dans le centre de Montréal. La deuxième chose, c'est de pouvoir mutualiser, on en a parlé un petit peu plus tôt, les ressources, les services, les expertises. C'est de pouvoir se réunir tous ensemble. Il va y avoir un code de vie pour que tous les organismes puissent fonctionner à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment beaucoup de collaboration entre les différents groupes à l'intérieur du bâtiment. Et... de simplifier un peu les services, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver tel et tel service, il faut aller chercher sur Internet, on ne sait pas toujours comment s'orienter. Là, de pouvoir réunir tout un tas de services dans une même place va être vachement aidant pour réorienter les personnes vers les bons services, en l'occurrence, et puis au sein du village, qui est vraiment, pour le coup, la place incontournable de la communauté.
Bon, juste rapidement, ça va coûter combien tout ça? Je sais qu'il y a 12 millions qui s'en viennent. Oui,
tout à fait. Ouais. Au total, c'est un projet d'une envergure de 18 à 19 millions, entre l'achat du bâtiment, la gestion, la réhabilitation du bâtiment.
Mais l'édifice est déjà payé, vous l'avez déjà acheté.
Exactement, le bâtiment est déjà acheté depuis 2023. Mm-hmm. Et puis là, on passe dans sa phase de rénovation qui, aujourd'hui, est chiffrée aux alentours de 13 millions.
OK, donc on est presque tout financé. Là.
On est 100% financé aujourd'hui. Il reste encore... dans le montage financier global, on est bon. Il va rester 2-3 choses à aller chercher. Mais ça, c'est comme des obligations communautaires. Ouais. Voilà. C'est juste pour simplifier le après. C'est qu'on ne pense pas tant à... On a pensé à aujourd'hui, mais le après, c'est de pouvoir maintenir des loyers abordables. Ouais. Donc, on va chercher d'autres sources de financement. Mais c'est sûr que les 12 millions, là, aujourd'hui, c'est vraiment le palier fort.
Alors, à quel moment on croit que ça va être ouvert, ça?
Alors, ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, on prévoit une ouverture pour 2028. On ne peut pas préciser quand, en 2028, tout simplement, parce qu'il pourrait y avoir des débordements de travaux. On ne sait pas exactement le contexte. Puis, il va y avoir la réhabilitation de la rue aussi de Sainte-Catherine. Ouais. Donc, il va falloir cohabiter avec tout ça. Nous, notre objectif, notre souhait, c'est que ça puisse être ouvert pour les festivités de 2028.
De Fierté Montréal.
De Fierté Montréal,
c'est ça. De toute façon, c'est normal, hein, tous les grands projets, on peut estimer une date, mais il y a toujours des impondérables dans tout ça. On parle beaucoup de défis de cohabitation, d'itinérance, de fermeture de commerce dans le village. Et puis, on sait depuis des années, il y a beaucoup de personnes mécontentes, ça ne va pas bien, qu'on dit. Alors, en quoi l'arrivée d'un tel pôle communautaire pourrait participer activement à la relance sociale et économique du village?
Mais c'est sûr qu'avec une présence quotidienne d'organisation au sein du village, ça va apporter du monde. Nous, on parle d'un achalandage d'à peu près de 20 000 personnes annuelles. Mm-hmm. On parle de 10 organismes communautaires à l'intérieur, mais c'est aussi tout le passage des visiteurs et autres. Donc c'est sûr que ça va apporter de la vie déjà dans cet espace-là. Le fait de maintenir aussi des organisations communautaires, c'est que c'est un bâtiment qui va rester. C'est pas un bâtiment où peut-être dans 2-3 ans, ça fonctionnera plus, que les loyers seront trop chers. C'est un bâtiment qui est là pour le durable.
Ouais.
Donc ça va apporter de la durabilité pour le village. Donc c'est sûr que ça va rassurer déjà beaucoup les communautés de se dire « cette place-là va exister et elle va exister longtemps ».
Il me reste beaucoup de temps, mais on connaît la situation actuelle, comment le climat qui n'est pas très bon pour les communautés LGBT. Alors, en quoi ce projet va-t-il aider à changer un peu, faire tourner la vapeur là?
Ben, ça va offrir un lieu sécuritaire, inclusif, permanent. Ça va soutenir les organismes de première ligne. Ça va renforcer le réseau. C'est d'avoir un bâtiment avec de la visibilité. C'est qu'aujourd'hui, on existe. Parfois, on essaie de nous effacer. Mais on ne peut pas effacer un bâtiment en tant que
tel. Non, tout à fait, tout à fait. Quentin Bella, chargé de communication pour Espace LGBTQ+, ici à Montréal. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.